sans toi, moi je deviens fou. Ça va les
sables, Mariam Koulibaly.
Ça va les sables, laisse pas mes amis se moquer. Ça va les sables, ça va les sables. Il fait un bout de chien, ça va les sables. Ça va les sables, tout le bébé, ça va les sables. Yeah, na 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 na.
De la paix. Il est 12h. Le journal de midi. Jean-Claude Mabéa.
Les députés ivoiriens viennent d'adopter à l'unanimité le calendrier des travaux pour la seconde session extraordinaire de l'année 2023. Les détails sur le contenu de ce chronogramme en début de ce journal avec le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Après les municipales du 2 septembre dernier, la nouvelle équipe des conseillers municipaux de Mans vient d'être installée et le préfet de région en a profité pour inviter les membres du dit conseil à œuvrer pour l'unité et la paix dans l'intérêt, pour l'intérêt pardon, des populations, nous dira Stéphane Adams dans cette édition. Et dans l'actualité au Niger, le désengagement des militaires français du pays annoncé par le président Emmanuel Macron le 24 septembre dernier commence ce jeudi. Et notre invité de la rédaction de ce jour est le professeur Dion Yodé Simplice, professeur de philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il reviendra sur la décision du chef de l'État Alassane Ouattara de renouveler son équipe après la récente élection locale et sénatoriale, tout en situant les enjeux de cette décision. Le professeur Dion Yodé Simplice apportera des éléments de réponse dans cet entretien que va mener Jean-Claude Comé en fin d'édition. Voilà pour l'essentiel. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Les députés ont adopté à l'unanimité le mercredi 4 octobre 2023, au cours d'une séance plénière tenue à l'hémicycle à Abidjan Plateau, le calendrier des travaux de l'Assemblée nationale. Et ce, au lendemain de l'ouverture de la seconde session extraordinaire de l'année 2023. Des précisions sur le contenu de cette feuille de route avec Adama Big Togo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire.
Et la conférence des présidents s'est réunie le mardi 3 octobre afin d'examiner un projet de calendrier des travaux parlementaires pour la période allant de ce jour, mercredi 4 octobre au mercredi 20 décembre 2023. C'est donc ce projet de calendrier mis à votre disposition qui vous est soumis pour adoption. Je voudrais vous informer qu'à ce jour, 17 projets de loi se trouvent sur le bureau de l'Assemblée nationale. Ces projets de loi se répartissent comme suit. 12 projets de loi ordinaires, 3 projets de loi de ratification de conventions internationales et 2 projets de loi de ratification d'ordonnances. À ces projets de loi s'ajoutent 3 projets de loi budgétaires inscrits en blanc, à savoir le projet de loi de finances rectificative de l'année 2023, le projet de loi de règlement du budget de l'État pour l'année 2022 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2024. Il est également prévu au calendrier 3 séances de questions orales avec débat et une semaine consacrée à l'évaluation, dite semaine de l'évaluation, du 17 au 19 octobre. Comme il est de coutume, un temps de travail est laissé au groupe parlementaire pour leur permettre d'examiner les différents textes en leur sein. Cette période part du jeudi 5 octobre au lundi 16 octobre.
Adama Big Togo, le président de l'Assemblée nationale. Rendons-nous maintenant dans la capitale régionale du Tonkpi, où les conseillers municipaux de la commune de Mans viennent de procéder à l'installation de la nouvelle équipe pour les 5 prochaines années. Cette installation était présidée par le préfet de région du Tonkpi, Wombléon Célestin, préfet du département de Mans. Des élus censés d'apporter des solutions aux préoccupations pour le bien-être des futurs de leurs administrés. Les échos avec Stéphane Adams, notre correspondant régional dans le Tonkpi.
L'effectif légal du conseil municipal de Mans, 55. 48 ont répondu présents pour élire la nouvelle équipe de la municipalité. Au sorti de l'urne, le préfet des régions du Tonkpi, Womblignon Célestin, préfet du département de Mans, a fait cette communication.
Éviter la vigilance parce que les élections sont terminées. On n'est pas conseiller municipal pour combattre le maire. Lorsqu'on est conseiller, on sert la population. C'est ça qu'il faut comprendre. L'essentiel est le développement. Ce qui est intéressant dans cette affaire des maires, en réalité, c'est la population qui vote contre eux. Le plus petit des habitants du monde peut vous dire si lui ou non est fait à travail. Donc, ne vous amusez pas à plomber ce mandat. Faites tout pour que ce mandat soit un succès. Si le mandat est un succès, c'est vous qui avez réussi, ce n'est pas lui seul.
Réponse positive des conseillers élus. Aboubacar Fofana, porte-parole, maire reconduit.
Monsieur le gouverneur, ainsi que tout le corps préfectoral ici, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nous sommes partis pour une aventure de solidarité, d'action commune et d'engagement de tous. Et je suis fier de conduire cette belle équipe, riche dans sa diversité, mais riche aussi dans son expérience. Je voudrais vous rassurer que c'est de cette façon que nous allons gérer, une façon consensuelle, une façon de gérer avec l'adhésion de tous, la participation de chacun. Et cette municipalité aura pour seul objectif de continuer de satisfaire nos parents.
A noter que l'atmosphère était conviviale sous le contrôle des forces de sécurité déployées sur le lieu de vote. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Demain, on met le cap sur la capitale politique ivoirienne où le ministre canadien des Affaires étrangères, de la francophonie et des gouvernements locaux a visité le mardi 3 octobre dernier en compagnie de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro. Les détails de cette visite avec vous, Émile Yao.
L'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire et l'Université de Moncton au Canada, à travers cette visite, veulent renforcer leur collaboration en termes de mobilité étudiant, de recherche et de partage d'expériences. Son Excellence Glenn Savoie, ministre canadien des Affaires étrangères, de la francophonie et des gouvernements locaux.
On a des ententes entre l'Université de Moncton et cette école ici. Alors, on est ici pour découvrir qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qu'on peut profiter, nous, pour qu'on puisse mieux comprendre les besoins des gens chez nous et des gens ici. C'est vraiment intéressant et je suis tellement impressionné.
Impressionné l'est tout autant le directeur général de l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny de Yamoussoukro, Dr Moussa Diaby.
Nous avons visité le Canada et on avait été véritablement impressionné par leur capacité. Vous savez que le Canada, c'est un pays qui pratique le plein emploi. Le taux de chômage est nettement faible, donc il était important pour nous d'aller voir comment ils font pour y arriver et voir dans quelle mesure on pouvait, au niveau de la Côte d'Ivoire, transposer un peu les bonnes pratiques que nous avons pu voir en termes de formation, en termes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, à l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, c'est voir un peu comment on peut aller en profondeur, justement, dans cette collaboration.
Son Excellence Bassetigué Ouattara, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, maître d'œuvre de cette collaboration entre ces deux entités.
Le sens de cette visite, c'est de faire en sorte que cette entente qui a été signée l'année dernière puisse connaître un début de mise en œuvre.
Était également de la visite le recteur de l'Université de Moncton, Ennis Broadhome. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
On poursuit ce journal en parlant à présent de campagne de commercialisation 2023-2024 du café et du cacao. De nouveaux prix ont été annoncés le 1er octobre dernier. Le prix garanti du kilogramme de cacao décortiqué, trié et bien séché atteint désormais 1000 francs CFA, soit une hausse de 100 francs CFA par rapport à la campagne précédente. Le café connaît également une augmentation avec un prix fixé à 900 francs CFA par kilogramme en hausse de 150 francs CFA. Comment réagissent les organisations agricoles? Une augmentation qui semble satisfaire les attentes des producteurs membres de l'ANAPROCI. C'est ce que fait savoir ici Kanga Kofi, le président de l'Association nationale des producteurs café-cacao de Côte d'Ivoire. Il souhaite au passage le respect de ses prix.
On aurait voulu mieux que ça, parce que quand nous prenons le cas du Ghana, le Ghana aujourd'hui, ils sont à 1100 francs, ils sont au-delà. Quand nous prenons le Cameroun est au-delà. On ne dira pas que le prix de 1000 francs bon champ ne peut pas être payé, puisque l'année dernière où la Côte d'Ivoire s'est retrouvée légèrement en hausse par rapport au Ghana, on a entendu plusieurs arguments au niveau des opérateurs, au niveau surtout des exportateurs. Mais cette année, on peut dire que raisonnablement, la Côte d'Ivoire a un prix qui est nettement dans la fourchette. Donc pourquoi à alors on ne va pas respecter ces prix. Et quand nous notons que nous sommes les premiers en matière de production, on aurait voulu mieux avoir une rémunération encore plus attrayante. Mais déjà, il faut le dire, ces prix, il faut le saluer, parce que quand même, c'est nettement en hausse par rapport à l'année dernière. Nous, on veillera avec d'autres associations sœurs pour que, effectivement, ces prix, bon chance, soient vraiment respectés. Et surtout que nous savons que, par rapport aux autres pays, nous ne sommes pas totalement bien lotis. Je ne vois pas pourquoi, encore avec ça, les acheteurs pourront ne pas respecter ces prix-là au niveau bon champ. Par conséquent, on appelle tous nos producteurs et l'ensemble des producteurs aussi de café cacao à faire en sorte que dans le traitement des produits, les choses soient respectées de telle sorte qu'on ait des produits de qualité. On appelle aussi le conseil café cacao à plus de vigilance pour que, effectivement, sur le terrain, cette fois-ci, les prix soient respectés tout le long de la campagne.
Nous écoutions à l'instant Kanga Kofi, le président de l'Association nationale des producteurs de café cacao de Côte d'Ivoire. Hausse du prix du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire depuis le 1er octobre. 60 francs CFA face le prix du super samplon et du gasoil. Comment 60 francs donc sur le super samplon, comme je le disais, et sur le gasoil? Comment les différents syndicats de consommateurs ivoiriens vivent-ils cette augmentation décidée par le gouvernement? Élément de réponse avec Ivaka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire.
C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Toute augmentation de prix est une mauvaise nouvelle pour nous. Et donc, malheureusement, depuis le 1er octobre, cette annonce a été faite et nous sommes en train de prendre les positions qu'il faut.
Qu'est-ce que vous entendez par prendre des dispositions?
Étant donné que l'augmentation du prix du carburant est susceptible d'avoir des répercussions sur le coût de la vie de façon générale. D'abord, en ce qui concerne les transports et ensuite au niveau des denrées alimentaires. Et après cette annonce, notre gouvernement nous a fait savoir qu'il y a eu des échanges avec ces acteurs que j'ai cités plus haut. Et nous aussi, organisation des consommateurs, depuis le vendredi, nous avons eu une rencontre avec le ministre en charge du commerce. On a été informé, on a été briefé, mais on nous fait savoir que des engagements ont été pris au niveau des transporteurs et au niveau des commerçants. Donc nous, on ne peut que s'en tenir à ces engagements. Mais une chose, c'est de prendre des engagements, une autre, c'est de les respecter. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous préparer, de nous organiser pour surveiller le marché, de sorte que ces engagements soient respectés au point de ne pas porter atteinte aux droits des consommateurs.
Yves Aka, président de la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, interrogé par Gapienan Désiré. Faisons un tour dans la ville historique de Grand Bassam, où après la montée des eaux, les femmes du fumoir de poissons du quartier France ont reçu une petite bouée de sauvetage le samedi 30 septembre 2023 au Palais Royal de Nzima. Ce don provient de la Mutuelle de Développement Économique d'Nzima Kotoko et de la royauté. Compte rendu signé Didier Blé.
Ambiance de fête, tambour et danse royale, la mutuelle du développement économique d'Nzima Kotoko, Mudenko, a décidé de lancer ses activités par un fort acte de sympathie et de solidarité à l'endroit des femmes fumeuses de poissons du quartier France. Certaines parmi elles ont été durement éprouvées par la montée des eaux. Joséphine Adou Kofi, présidente de la Mudenko.
Nos sœurs ici, en tant que fumeuses de poissons, cette montée des eaux a eu un impact sur leur fumoir. C'est en cela que nous avons profité. Quand vous avez des personnes motivées, tout est possible.
Un chèque d'une valeur de 1 500 000 francs CFA a été remis aux femmes pour leurs activités, tout en souhaitant également qu'elles se constituent en coopérative. Dame Kamelin Akechi a exprimé sa profonde gratitude.
Les mots nous manquent, c'est du jamais vu. Depuis qu'on filme poisson, on n'a jamais vu ça. On est contente, on nous a bien accueillis. Le travail a repris.
Présent à cette cérémonie, le roi d'Nzima Kotoko, Aoula Montanoé, a quant à lui fait un don de 500 000 francs CFA pour soutenir les femmes. Et en son nom, le porte-parole, Ndamoulé Belin, a félicité le bureau de la Mutuelle pour cette action et souhaitait que les jeunes s'organisent aussi pour tirer profit de l'embouchure lorsqu'elle sera achevée.
Organisez-vous. Ça fait pratiquement 2 ans et demi que Majesté a réuni tous les jeunes. C'était son combat. Si vous êtes organisés, on trouvera les moyens de vous accompagner. Les femmes viennent ouvrir le chemin.
Créé en mars, le bureau de la Mudenko, rappelons-le, a été investi le 27 mai 2023.
Une page noire dans ce journal, l'Église catholique de Côte d'Ivoire et les fidèles catholiques ivoiriens en deuil. Monseigneur Marie-Daniel Dadier, archevêque émérite de Korogo, est décédé le lundi 2 octobre 2023 à Paris en France. Secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, le père Emmanuel Wouiné rend hommage aux défunts et il a salué également la mémoire d'un rassembleur.
Monseigneur Dadier était d'abord un prêtre de proximité, un prêtre rassembleur. Et je pense, pour ma modeste part, que c'est cela qui lui a valu sa nomination en tant qu'évêque. J'ai vécu très loin de lui parce que je n'étais pas son prêtre. Je n'ai pas non plus travaillé dans les commissions épiscopales qu'il a eu à diriger. Mais je l'ai connu de loin. Déjà, étant dans mon diocèse, j'avais entendu parler de lui quand il était curé à la paroisse Sainte-Bernadette à Makori, enfin ici à Abidjan. Ce que j'ai retenu de lui, c'était que c'était un prêtre rassembleur. Il accueillait tout le monde, il accueillait les prêtres, surtout qui étaient de passage à Abidjan, qui étaient de l'intérieur. Et c'était un homme très accueillant, un homme très sympathique et jovial, qui aimait les relations. Voilà, c'était vraiment un homme de proximité, c'est ce que je peux retenir de Mgr Dadier.
Donc, une grande perte pour l'Église catholique de Côte d'Ivoire.
Tout à fait, d'autant qu'il a exercé son ministère d'abord en tant que prêtre ici, et puis à Katiola, comme à Korogo, auxiliaire, et puis à Korogo, de nouveau comme archevêque. Et bien évidemment, les questions de santé ont fait qu'il a présenté sa renonciation au gouvernement de l'église de Korogo. Et ces derniers temps, il était à Paris aux soins, et c'est là qu'il a été rappelé à Dieu.
Nous écoutions le témoignage du père Emmanuel Wouiné, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, interrogé par Soro Adams. Dans l'actualité sur le continent, 5 étudiantes ont été enlevées mercredi par des hommes armés dans le nord du Nigeria, 10 jours après le kidnapping d'une vingtaine d'autres dans une région voisine, a annoncé la police nationale. Une opération de police pour retrouver les otages est en cours, a précisé ce jeudi la police à l'agence France Presse, ajoutant qu'une personne en lien avec cet enlèvement avait été arrêtée. Ce rap intervient moins de 2 semaines après l'enlèvement d'une trentaine de personnes dans l'état voisin de Zamfara, dont au moins 24 étudiantes à proximité d'une autre université. Les forces de sécurité ont jusqu'à présent réussi à secourir 16 des otages, dont 13 étudiantes. Il s'agissait du premier enlèvement de masse d'étudiantes depuis que le président Bola Ahmed Tinubu est arrivé au pouvoir fin mai, avec la promesse de venir à bout des graves problèmes de sécurité du pays. Et puis au Niger voisin, le régime militaire au pouvoir du Niger a assuré ce jeudi que le retrait des militaires français, qui doit débuter dans la semaine selon Paris, se fera selon ses conditions et dans le respect de ses intérêts. L'état-major français des armées a annoncé très tôt ce matin, dans la matinée, donc, que ces troupes déployées au Niger vont amorcer leur retrait du pays dans cette semaine. Dans la foulée, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, au Niger, a confirmé cette annonce dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux et repris par l'AFP. Nous arrivons maintenant au dernier temps fort de ce journal, l'invité de la rédaction. Et celui que nous recevons ce jour est le professeur Dion Yodé Simplice, professeur de philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il analysera la décision du président de la République Alassane Ouattara de renouveler son équipe après les récentes élections locales et sénatoriales. Mais quels en sont les enjeux? Professeur Dion Yodé Simplice apportera des éléments de réponse dans cet entretien mené par Jean-Claude Comé.
Professeur Dion Yodé Simplice, bonjour.
Bonjour.
Comme il a annoncé lors du Conseil des ministres du 28 septembre dernier, le président de la République commence à renouveler certains responsables d'institutions. Il a aussi annoncé un remaniement ministériel. Pourquoi, selon vous, une telle décision au sorti de ces élections locales du 2 septembre?
Alors, pour résumer ce qui est en train de se faire ou ce qui va se faire dans quelques jours et dans quelques semaines, on pourrait citer ce proverbe africain qui dit que ce n'est pas le jour du combat qu'on aiguise sa lance. ce qui signifie que le chef de l'État est dans sa vision stratégique. On fait des nominations, on fait un remaniement parce qu'on a une vision. Il y a deux choses. La première, c'est l'atteinte des objectifs clairement définis, notamment dans ce que le RHDP a appelé la Côte d'Ivoire solidaire. Et de ce point de vue-là, il faut accélérer les réformes. Certainement, le chef de l'État te dit que c'est le moment d'accélérer les réformes parce que 2025 n'est pas loin. Il y a aussi une nécessité certainement de réajuster des politiques à travers l'usage efficient des compétences et des talents. Il y a certainement aussi la nécessité de renouveler, c'est-à-dire d'injecter du sang neuf pour un souci d'efficacité. Mais le deuxième pan de tout ça est le plus important en termes d'enjeu, c'est la présidentielle de 2025. Alors, pour l'année 2025, on se rend compte qu'il y a deux cas de figure. Ou bien Alassane Ouattara est candidat, ou bien Alassane Ouattara n'est pas candidat. Vous comprendrez que, d'un point de vue comme de l'autre, ce qui se passe, c'est que il faut prendre des dispositions et les nominations à venir, il faut bien les regarder, les scruter, parce que ça sera un indicateur très important pour savoir si le président de la République va y aller ou s'il va préparer une équipe et un homme pour y aller.
Justement, vous mettez tout cela en termes d'enjeu dans cette perspective donc des élections présidentielles. Alors, lorsqu'on est un chef de l'État à mi-mandat, quelles sont les visions ou les stratégies possibles pour le chef de l'État?
Alors, j'ai donc dit tout à l'heure que les stratégies, c'est ou bien il rempile et donc il utilise tout le travail qui a été fait précédemment, réorganiser ses troupes et venir convaincre les Ivoiriens en 2025 que j'ai fait du bon travail et qu'à partir du travail que j'ai fait, je souhaite un autre mandat, ou bien il regarde l'environnement, qu'il soit national ou international, il se dit, je ne peux plus y aller, alors je prépare quelqu'un pour y aller, mais dans tous les cas de figure, un bon stratège comme Alassane Ouattara regarde l'adversité. L'adversité, ça sera quoi? Premièrement, l'opposition qui peut, malgré la débâcle que nous venons de constater, qui peut se remettre très rapidement de ces traumatismes, de ces divisions internes pour se mettre d'accord sur un objectif précis, fait partie du RHDP. Ça, ce n'est pas impossible.
Alors, justement, est-ce que sur cette base, on peut s'attendre à un chamboulement du gouvernement? Il a annoncé, bien sûr, les couleurs, en disant avoir été élu, donc maire ou président du conseil régional n'est pas un critère. Est-ce qu'on peut voir un chamboulement avec des visages nouveaux ou éventuellement rester l'équipe qu'on a en étoffant? Pour vous, quels sont les schémas possibles?
Mais tout dépend de l'appréciation que le président de la République lui-même fait du travail de ses collaborateurs. Il y a un premier ministre qui fait, à mon avis, un très bon travail, mais il n'y a pas que le premier ministre. Le premier ministre travaille avec des ministres. Alors le président regardera chacun, puisque chacun a une mission qui va dans le cadre général de la Côte d'Ivoire solidaire. Et certainement que s'il y a un ministre qui n'a pas pu atteindre ses objectifs, s'il n'a pas pu produire les résultats, alors je crois qu'il y aura des réajustements. Ou bien on le déplace, mais ou bien on le change totalement, parce qu'il ne gouverne pas pour des ministres, il gouverne pour le peuple de Côte d'Ivoire, à qui il a donné des indicateurs précis, des objectifs précis. Alors si votre travail n'entre pas dans ses objectifs, mais évidemment il va se séparer de vous. Donc je crois qu'il va apprécier au cas par cas, mais au stade où nous sommes, il est important pour le chef de l'État de renouveler ses équipes, mais il n'est pas un homme de rupture, ça on le connaît, mais il peut quand même engager son gouvernement dans le sens de l'efficacité, et je pense que c'est ce qui va être fait.
Alors, mais que pensez-vous de la forme de cette annonce? Généralement, comme il a dit, au sortir d'une telle élection, on demande donc au Premier ministre donc, de rendre sa démission, et puis on est dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Mais ici, il parle de remaniement, il donne à peu près la période donc, de ce remaniement-là. Pourquoi cette démarche d'annonce aussi subite?
Oui, ben, c'est l'effet de surprise, et ça, c'est la prérogative du chef, qui, à tout moment, peut vous dire, mais voilà les décisions que je vais prendre. Il s'agissait pour lui de donner le chronogramme des activités qu'il va mener dans quelques semaines. Je pense que c'est pédagogique et ça a le mérite de dire à chacun, bon, il faut vous attendre à partir, à vous déplacer, à céder la place, mais c'est le président de la République de Côte d'Ivoire et c'est lui qui va rendre compte au peuple de Côte d'Ivoire.
Professeur Yodé Dion, je vous remercie.
C'est à moi.
Je rappelle que le professeur Yodé Dion, professeur de philosophie politique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, était l'invité de la rédaction de ce jour. Il se prêtait aux questions de Jean-Claude Comé, entretien qui met fin à ce journal. Le rappel de l'essentiel. Les députés ivoiriens ont adopté à l'unanimité hier le calendrier des travaux pour la seconde session ordinaire 2023. Vous avez eu les détails sur le contenu de ce chronogramme en début de ce journal. C'est sur cette note que prend fin ce 12h. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité, c'est à 15h. Mais avant, la revue de presse avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. L'audience hier accordée par le président de la République au président par intérim du PDC hier.